Madame, Monsieur, bonjour. La documentation française a récemment publié dans sa revue Regard sur l'actualité, consacrée à l'actualité des politiques et au débat public, un dossier sur la justice en réforme, où en sommes-nous ? Qui dresse un bilan des réformes de la justice depuis 2007. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio M. François Théré de l'Académie des sciences morales et politiques pour recueillir son point de vue sur les réformes de la justice au cours de cette période. François Théré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie aussi.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un éminent juriste, professeur émérite de l'Université de droit de Paris 2 Panthéon-Assas. Vous avez été conseiller technique au cabinet de Jean Fouayer, ministre de la Coopération puis garde des Sceaux. Et vous avez été membre de la commission de réforme du Code de procédure civile. Depuis 1983, vous avez présidé l'Association française de philosophie de droit et vous êtes chargé des archives de philosophie du droit depuis cette même année. Le 11 décembre 1995, vous avez été élu dans la section législation, droit public et jurisprudence de l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil laissé vacant par le décès de Suzanne Bastide. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages de droit et notamment de droit civil. François Théré, quel bilan faites-vous des réformes de la justice depuis 2007 ?
Je vais m'en tenir donc, comme vous me le demandez, au quinquennat qui viendra bientôt à son terme. Et je pense qu'on peut, sur ce sujet, procéder à la distinction de quatre au moins problèmes. La première série de questions, ou première série d'observations, a trait à des réformes dont on peut considérer que les résultats étaient satisfaisants. J'en vois au moins deux. La première concerne le dessin de la carte judiciaire, et qui était une réforme longtemps préconisée, mais jamais réalisée à proprement parler. Et je pense qu'au total, ce qui s'est produit est satisfaisant. La seconde considération, le second domaine dans lequel on peut considérer que la réforme intervenue est satisfaisante, même si dans son application, elle suscite des difficultés particulières. Il s'agit de la réforme de la garde à vue et essentiellement de la possibilité et même de l'obligation, s'il le demande, de faire assister la personne qui se trouve entre les mains de la police par un avocat. C'était une réforme demandée depuis longtemps et au fond, on s'aperçoit qu'elle n'est pas de nature à compliquer profondément la mission même des autorités de police judiciaire. Et après tout, mieux vaut s'exposer à ces critiques, encore qu'elles soient mineures, car autrefois, s'il n'y avait pas d'avocat pour mettre ses talents au service de la personne arrêtée par les services de police, il était évident que ensuite, ultérieurement, cela permettrait à la personne arrêtée ou détenue de remettre en question facilement ce qu'elle aurait avoué en l'absence de son avocat. Donc, première catégorie de bonnes réformes. Deuxième catégorie de réformes, des réformes qui ont été abandonnées. Et je pense notamment à ce qu'avait annoncé le président de la République lors de la réunion plénière, lors de la séance de rentrée de la Cour de cassation au début de l'année 2009. Il avait été indiqué au début de cette année que l'on supprimerait, l'on irait vers la suppression de juges d'instruction. C'était une réforme que pour ma part, et je n'étais pas le seul, on pouvait considérer comme contestable, car elle avait pour conséquence de mettre totalement les pouvoirs entre les mains du parquet, au détriment justement de juges qui ont une indépendance qui est nécessaire. Et tout le monde a répété, ceux qui étaient tout au moins favorables à cette réforme, qu'en pratique, la saisine du juge d'instruction n'intervenait que dans 5% des cas. Mais mille regrets. C'était dommage qu'elle n'intervienne que dans 5% des cas, et d'ailleurs c'était des cas très importants, et en réalité il aurait fallu dire qu'elle aurait dû intervenir dans beaucoup plus de cas que 5% des cas. Et par conséquent là, finalement, devant l'opposition suscitée par ce projet, finalement il a été abandonné, on n'en parle plus, et tant mieux. Viennent ensuite, c'est la troisième catégorie à laquelle je songeais, des réformes qui ont été réalisées depuis 2007 et en particulier la réforme qui a eu pour conséquence de prévoir l'intervention de jurés devant les tribunaux, de jurés populaires, comme il en existe devant les cours d'assises, mais qui interviendra désormais aussi à échelon et dans certaines circonstances et conditions sur lesquelles je n'insiste pas, devant les tribunaux correctionnels, donc à propos non plus seulement de crimes mais de délits. C'est une réforme qui a été un peu mise en œuvre, qui l'est à l'heure actuelle dans certains tribunaux et qui me paraît contestable, car elle introduit une dualité, une mixité pour nombre d'infractions à l'égard desquelles, et au sujet desquelles plutôt, les magistrats de carrière formés à cet effet, pas seulement au pénal mais aussi au civil, mais en tout cas au pénal, sont mieux qualifiés lorsqu'ils sont à même eux-mêmes et seuls de pouvoir appliquer la loi pénale de manière correcte. Et l'on verra, mais l'on verra un peu tardivement, que cette réforme est en elle-même contestable, car elle remet en cause même la formation des magistrats d'une manière générale, y compris à travers l'École nationale de la magistrature. Autre réforme qui me parut mauvaise, c'est une réforme qui est intervenue du fait de la réforme constitutionnelle opérée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Car elle aboutit, elle a consisté à permettre la possibilité pour les justiciables, devant les juridictions du fond, de saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité des règles qui sont en cours d'application devant la juridiction dont ils sont les plaideurs. Cette remise en cause du pouvoir essentiel des juridictions suprêmes, Conseil d'État ou Cour de cassation, est de nature à remettre en cause les pouvoirs mêmes du Parlement à la demande de n'importe quel plaideur intéressé à la prolongation de l'action judiciaire. Et ce qui est frappant, c'est que des questions mineures, secondaires de droit, ont même été suscitées de la sorte et soumises de la sorte au Conseil constitutionnel, alors qu'il n'y avait pas de raison de véritablement y procéder. Et c'est simplement, et plutôt, ce désordre, cette remise en cause possible de tout le droit français en lui-même, dès l'instant qu'il pourrait être mis en cause à titre de sa constitutionnalité, et qui sème le trouble et l'incertitude sur tout le droit français actuel. Dans le même temps que certaines dispositions qui me paraissent inconstitutionnelles risquent d'échapper à la censure du Conseil constitutionnel. Voilà la troisième série, donc je disais première série des bonnes réformes, deuxième série des réformes abandonnées, troisième série des réformes discutables, et puis il y a une quatrième observation, c'est les réformes qui demeurent à faire. Et s'agissant de ces demeures à faire, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire pour 36 raisons d'ailleurs, les unes d'ordre financier et comptable, les budgets de la justice bien entendu, mais d'autres plus fondamentalement juridiques et judiciaires, qui concernent notamment, puisque nous parlons surtout de la justice en réforme, et par conséquent essentiellement de ce que je vois à l'heure actuelle de la justice pénale, il y a beaucoup à dire sur ce que l'on constate aujourd'hui. Et plusieurs questions à cet égard sont souvent soulevées, et soulevées à divers titres, souvent devant une opinion qui, lorsqu'elle s'exprime par voie même de sondage, sur la justice en réforme, où en sommes-nous, c'est justement la publication de la documentation française, il y a là des questions qui seront plus ou moins récurrentes, mais qui sont en elles-mêmes fondamentales pour l'avenir des libertés dans notre démocratie. Et notamment, je signale qu'il y a des questions très difficiles à résoudre. La première qui souffre difficulté, qui est la récidive. La sanction de la récidive de diverses sortes de personnes. La difficulté consiste à définir ce que c'est que la récidive, et il y a autant de récidives possibles que de types d'infractions considérées. Et c'est pourquoi il est difficile de traiter d'une manière générale, et comme pour satisfaire les revendications d'une opinion exaspérée, il est quand même assez difficile de parler sérieusement de la récidive si on ne se préoccupe pas des expériences étrangères ou même de celles du passé en France. La deuxième question, toujours dans cette quatrième catégorie de questions, ne concerne pas la récidive, mais concerne la délinquance. Et la délinquance, on voit que loin d'avoir diminué depuis 5 ans, elle est plus ou moins, elle n'a pas augmenté de manière fondamentale, mais elle est quand même assez stationnaire et plutôt stabilisée. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que quand même, dans certains secteurs, il y a une augmentation évidente de la délinquance, exemple les cambriolages. Et puis alors, il y a une troisième question qui n'est pas non plus négligeable et qui est relative à la préoccupation du traitement des personnes incarcérées et condamnées même. Car on dit, ce qui choque les Français, ce qui choque l'opinion, c'est que les personnes sont condamnées, mais ne font pas la totalité de leur peine. C'est une question qui est importante et qui, je vais vous prendre un exemple, donne à penser à tout le monde, mais les gens sont libérés au bout de la moitié de leur peine. Ils peuvent être libérés bien avant. Dès la première année, ils ont un acquis de 3 mois sur le montant de leur peine. Les 2 années suivantes, ils peuvent avoir 2 mois de crédit. 2 mois de crédit, ça fait 7 mois gagnés s'ils restent tranquilles dans la prison. Et après, à 1 an même de la moitié du temps à l'issue duquel la libération conditionnelle est de droit, ils peuvent échapper même à 1 année encore par la substitution d'un bracelet électronique à un temps d'emprisonnement. Moi, non quoi, je vous dis, quelqu'un qui est condamné à 8 ans peut n'en faire que 3. Et c'est même pas la moitié, c'est beaucoup plus de 3. Et là, c'est le problème plus général des sanctions du droit pénal. Mais nous nous trouvons ici au sujet et au centre d'un problème que l'on a vu essayer d'être traité par d'autres gouvernements sous l'égide d'autres présidences de la République. C'est le problème de l'existence des peines de substitution. C'est l'existence aussi de la construction davantage de places dans les prisons. C'est beaucoup de choses et c'est surtout le problème central. Qu'est-ce que l'on veut punir? Est-ce que l'on veut punir, lorsqu'il y a une infraction, l'homme qui a enfreint la loi pénale, ou est-ce qu'on veut punir l'acte en lui-même? Si vous punissez l'homme, et avec toutes les théories qui sont intervenues, psychologiques, sociologiques et autres, vous ne punirez personne, car il y aura toujours des raisons qui justifieront sa délinquance. Mais si vous punissez l'acte, alors vous punissez tout le monde, et vous punissez même la personne qui a agi sous l'empire d'un trouble mental. Punit-on l'homme? Punit-on l'acte? À votre sujet et à moi de me taire.
François Terret, merci pour ce point de vue et à très bientôt.